Séoul au jour le jour. Bonsoir à toutes et à tous et merci de nous rejoindre pour cette nouvelle édition de votre magazine de société Séoul au jour le jour. Jeudi dernier, c'était le jour du Suneung, l'équivalent du baccalauréat en Corée du Sud. Sur les quelques 500 000 candidats inscrits, environ 450 000 se sont présentés dans 1200 centres d'examen réquisitionnés sur tout le territoire. Pour les Sud-Coréens, l'enjeu de cet examen d'aptitude aux études universitaires est crucial, car le résultat détermine non seulement leur admission à l'université, mais peuvent aussi avoir d'importantes conséquences sur leur future vie professionnelle et personnelle. Ce jour-là, vers 22h, deux personnes sortaient par la porte principale de l'école nationale de Séoul pour les aveugles située au centre de la capitale. Il s'agissait d'un garçon de 19 ans, du nom de Che, qui venait de passer son Suneung ainsi que de sa mère. Normalement, le Suneung commence à 8h40 et se termine avant 18h. Alors pourquoi ce jeune homme est-il sorti si tard? En effet, il est atteint de malvoyance sévère. Son examen s'est terminé à 21h48, comme pour tous les autres candidats qui souffrent de déficience visuelle. Dans tout le pays, 399 candidats en situation de handicap ont passé leur Suneung dans des conditions et des horaires adaptés à leurs contraintes physiques. Parmi eux, ceux ayant une déficience visuelle ont utilisé des questionnaires en braille ou en caractère agrandi. La durée de l'examen a été prolongée de 50 à 70%. Quant aux candidats souffrant de handicap moteur, tels que la paralysie cérébrale, ils ont disposé d'un temps d'examen 1,5 fois plus long. Enfin, pour les candidats souffrant d'une déficience auditive, le test de compréhension orale en anglais a été remplacé par une épreuve écrite. Durant les épreuves, les parents étaient nombreux à attendre leurs enfants à l'extérieur des centres d'examen. Interviewé par le journal Hanguk, le père d'un candidat malvoyant s'est dit inquiet pour son fils qui devait lire une centaine de pages de la version en braille de l'épreuve de coréen. Une mère s'est plainte du fait que son enfant devait rester enfermé pendant pas moins de 13 heures dans la salle. À la fin de l'examen, un candidat sourd de 25 ans a confié au quotidien qu'il s'était beaucoup inquiété pour son premier Suneung, mais que tout s'était bien déroulé grâce à l'interprète en langue des signes présent dans la salle. Les résultats de l'édition 2024 du Suneung seront communiqués aux candidats le 8 décembre prochain. Le 22 décembre 1902, c'est le jour où les premiers immigrants coréens en groupe ont quitté le port de Jeollabuk à Incheon à bord d'un paquebot nommé Gaelic. Ils sont arrivés à Honolulu, dans l'archipel américain d'Hawaï, le 13 janvier 1903. Partagés entre la peur de l'inconnu et l'espoir d'un avenir meilleur, ils ont commencé une nouvelle vie en tant qu'ouvriers dans les plantations de canne à sucre. Depuis, les Coréens se sont installés un peu partout dans le monde et ont percé dans différents domaines de leur pays d'accueil. Le 13 novembre dernier, quelques 80 hommes et femmes politiques d'origine coréenne d'une dizaine de pays se sont réunis à Séoul pour participer au 9e Forum mondial des politiciens coréens. Pendant 4 jours, ils ont partagé leur expérience en tant qu'immigrés et leur histoire de réussite. Parmi les participants se trouvait Sylvia Luk. Elle a été élue gouverneure adjointe de l'état d'Hawaï l'année dernière, devenant ainsi la première femme d'origine coréenne à occuper un poste élu de haut rang. Elle a immigré avec ses parents à Hawaï en 1977 à l'âge de 9 ans. Avant, elle vivait dans le quartier de Shindang à Séoul, un quartier où, selon ses souvenirs, il n'y avait pas beaucoup de voitures et où ça sentait les bandegi, un encas populaire composé de chrysalides de verre à soie cuites à la vapeur. Elle dit ne pas avoir connu beaucoup d'actes de racisme vivant à Hawaï. Pourtant, lorsqu'elle a fait ses premiers pas dans la politique hawaïenne en 1998, les gens savaient peu de choses sur la Corée du Sud. Aujourd'hui, elle ressent une grande fierté en voyant la culture coréenne rayonner dans le monde. Un autre participant du forum, Park Jin-hoon, ancien membre de la Chambre des conseillers du Japon, a affirmé pour sa part qu'il existait une certaine discrimination envers les Coréens dans l'archipel. Il a cependant ajouté que les mentalités évoluaient progressivement. Selon lui, la preuve en est que lui, d'origine coréenne, a pu entamer une carrière d'homme politique grâce au vote des électeurs japonais. Par ailleurs, Kim Yong-un, président de l'agence des ressortissants sud-coréens à l'étranger, lui-même ancien immigré aux États-Unis, a souligné qu'il était important de permettre aux deuxième et troisième générations d'immigrés d'affirmer davantage leur identité coréenne. Il a ajouté que pour ce faire, différents programmes d'invitation ou de formation étaient en cours d'élaboration au sein de son agence.
Vous avez aimé, vous avez détesté, vous avez adoré. Faites-nous part de vos réactions en nous écrivant à french@kbs.co.kr.
Bienvenue si vous venez de nous rejoindre, vous écoutez Séoul au jour le jour en compagnie de Franck Atlani ce lundi 20 novembre. L'inflation se poursuit au pays du matin clair. Le phénomène mine certainement le moral des Sud-Coréens et les soldats n'y font pas exception. Quand ils font un déplacement pour une opération, ils ont droit à des frais de mission forfaitaires. Avec l'inflation, il est souvent hors de question de s'offrir le luxe d'une tasse de café après le déjeuner. Or, récemment, sur les réseaux sociaux, l'histoire d'un homme qui a offert des cafés à des soldats en mission a mis du baume au cœur aux internautes. Le post en question a été publié le 10 novembre. Son auteur est un cadre de la 6e division d'infanterie de l'armée de terre, basée à Cholwon, dans la province de Gangwon. Deux jours plus tôt, lui et une trentaine de ses soldats sont partis en bus pour rejoindre une base militaire à Gesan, dans la province de Chungcheong du Nord. Sur le chemin, ils se sont arrêtés sur une aire de repos pour déjeuner. Ils ont commandé chacun des ramen et un bol de riz, soit le menu le moins cher proposé par le restaurant. En effet, le budget déjeuner était limité à 8000 won, soit 5,7 euros par personne. Les plats leur ont été servis et ils ont commencé à manger. Peu après, un homme d'un âge moyen s'est discrètement approché d'eux et a demandé à l'officier à voix basse dans quelle unité il servait. Ce dernier lui a répondu lui aussi à voix basse qu'ils appartenaient à la 6e division d'infanterie. Le mystérieux homme a soudainement abordé un large sourire et a dit « Oh, moi aussi j'ai servi dans la 6e division. C'était en 1986. Je suis tellement content et reconnaissant de voir les jeunes militaires de ma division ici. » Puis, dans la foulée, il a proposé d'offrir des cafés à tous les soldats. Lorsque la trentaine de militaires a reçu chacun une boisson, le généreux inconnu a serré la main à l'officier et est parti, toujours le sourire aux lèvres. Dans son post sur les réseaux sociaux, le responsable des soldats a écrit « Je sers dans l'armée depuis 20 ans maintenant, mais je n'ai jamais vu un acte d'une telle générosité. J'ai été ému aux larmes. Avant d'ajouter, je suis fier de l'uniforme que je porte, je resterai toujours un soldat digne de ce nom. » Les internautes qui ont vu ce message accompagné des photos du généreux monsieur et d'un americano glacé n'ont pas manqué de laisser des commentaires. En voici quelques-uns. Ça m'a fait du bien au cœur en ces temps moroses. C'est d'autant plus émouvant que mon fils est aussi dans la 6e division. Ou encore, c'est un grand monsieur qui mérite tout le bonheur du monde. Pour les jeunes générations qui sont nées et ont grandi avec Internet et les smartphones, il n'est peut-être pas évident de savoir ce qu'est la télégraphie. Il s'agit en fait d'un système destiné à envoyer des messages, appelés télégrammes, sur une grande distance via des signaux électriques. Développé au 19e siècle, le service de télégraphie existe toujours dans de nombreux pays, dont la Corée du Sud. Eh bien, ce service va pourtant bientôt disparaître au pays du matin clair. C'est ce qu'a annoncé KT, qui assure la transmission de télégrammes sur tout le territoire. L'opérateur téléphonique a indiqué le 2 novembre sur son site internet que le service de télégrammes prendra fin le 15 décembre prochain, laissant derrière lui 138 ans d'histoire. La première compagnie de télécommunications du pays a fait savoir que le service n'était plus viable en raison de la baisse du nombre de ses utilisateurs et de l'accroissement de son déficit. D'ailleurs, elle a déjà mis fin à son service de télégraphie internationale en avril 2018. La télégraphie permet à deux personnes séparées par une grande distance d'échanger des messages écrits beaucoup plus rapidement que le service postal. Du coup, il a été largement utilisé dans le monde au 19e siècle et au début du 20e siècle, où l'usage du téléphone n'était pas généralisé. Comme le tarif est déterminé selon le nombre de mots, le message doit comporter un minimum de mots permettant de se comprendre. En Corée, le service de télégramme a vu le jour en 1885 lorsque le bureau général de la télégraphie de Hansong a envoyé le premier message depuis Séoul jusqu'à Incheon, ville située à 60 km de la capitale. Après la libération du pays du joug colonial japonais en 1945, le service a été transféré à la Poste Nationale, puis à Korea Telecom, ancêtre de KT. À partir des années 90, le nombre de télégrammes envoyés a rapidement diminué avec la généralisation des messageries électroniques et des téléphones portables. Depuis les années 2010, la télégraphie est quasi exclusivement utilisée pour transmettre des messages de félicitations ou des condoléances. Et finalement, l'opérateur a décidé d'abandonner le service face à la désaffection des usagers. D'ailleurs, la télégraphie a disparu ces dernières années dans plusieurs pays. En Belgique, Proximus a interrompu son envoi de télégrammes en 2017. En Allemagne, Deutsche Post a proposé son service jusqu'à décembre 2022. Notez cependant que KT continuera d'offrir le service de transfert télégraphique de cartes ou d'argent pour des occasions spéciales telles que les mariages, les funérailles ou les anniversaires.
Brouillard d'octobre et pluvieux novembre font bon décembre, dit le dicton.
Alors je prie pour qu'il pleuve. Voici la question tendez l'oreille du mois de novembre.
Le ministère de la Culture et l'Office national du tourisme de la Corée du Sud ont analysé les données des utilisateurs des réseaux sociaux et les résultats de différentes enquêtes réalisées ces trois dernières années.
Ce dans le but d'identifier les thèmes de la culture populaire sud-coréenne les plus appréciés par les touristes étrangers.
D'après le rapport publié le 10 octobre dernier, quel est le domaine qui a le plus la cote auprès d'eux?
Si vous ne connaissez pas la réponse,
nous vous proposons de consulter des nouvelles postées le 21 octobre dernier sur notre rubrique Showbiz.
Bonne chance à toutes et à tous
et merci de votre fidélité.
Les troubles du sommeil, est-ce que ça vous parle? Ça vous est déjà arrivé? Eh bien, en Corée du Sud, les personnes qui en souffrent sont en forte augmentation ces dernières années, à en croire les données publiées la semaine dernière par le Service National de l'Assurance Maladie, le NHIS. L'année dernière, quasiment 1,1 million de personnes ont été traitées à l'hôpital pour des troubles du sommeil, alors que ce chiffre était de 855 000 en 2018. Le nombre de mauvais dormeurs a ainsi augmenté de près de 30% en 5 ans au pays du matin clair. Pour rappel, les troubles du sommeil regroupent toutes les perturbations de la durée ou de la qualité du sommeil. Il peut s'agir d'insomnie, d'hypersomnie, de troubles du rythme circadien ou de troubles respiratoires durant le sommeil. Si on regarde la répartition des patients par tranche d'âge dans les données du NHIS, les soixantenaires étaient les plus nombreux avec 23%. Ils étaient suivis par les quinquagénaires, puis les septuagénaires. Selon le docteur Lee Jong-seok du département de psychiatrie de l'hôpital d'Ilsan du NHIS, la haute prévalence des troubles du sommeil chez les personnes dans la soixantaine s'explique par plusieurs raisons. D'abord, il y a la perturbation biologique inhérente à l'avancée en âge. Il faut plus de temps pour s'endormir. Les réveils nocturnes deviennent fréquents. Ainsi, la durée du sommeil se raccourcit. Le docteur Lee souligne également que les soixantenaires qui ont pris leur retraite ressentent souvent du stress lié au changement d'organisation de la vie quotidienne. Et cela rend ces individus vulnérables aux difficultés du sommeil. Les experts nous donnent plusieurs conseils pour prévenir ou réduire leurs troubles du sommeil. D'abord, garder un rythme régulier est important. Il faut essayer de se coucher, de se lever à des heures fixes. Puis, il est conseillé d'utiliser sa chambre uniquement pour dormir. Et surtout d'éviter de regarder la télévision ou son smartphone au lit. Ensuite, il vaut mieux ne pas consommer de stimulants, comme l'alcool ou le café. Enfin, concernant la sieste, les avis divergent. Certains experts la déconseillent, d'autres affirment qu'une vingtaine de minutes de sommeil en journée peut être bénéfique. En tout cas, ce qui est certain, c'est que de trop longues siestes sont à éviter pour mieux dormir la nuit. Une course-poursuite insolite s'est récemment déroulée dans un parc public dans la province de Chungcheong du Nord. Dans une grande cage, les gardiens du zoo couraient après un aigle en lui lançant un filet. Mais l'oiseau ne s'est pas laissé attraper facilement. Après de nombreuses tentatives, les hommes ont réussi à le capturer avant de l'emmener dans une salle d'examen vétérinaire au sein du parc. En effet, c'était le jour du check-up médical de l'animal. Le parc zoologique de Chungju procède à un bilan de santé de ses occupants une fois par an. La salle d'examen n'a rien à envier aux cliniques pour humains. Elle est équipée de tous les appareils nécessaires pour la radiographie, l'échographie et même le scan CT. En effet, le parc zoologique de Changju n'est pas vraiment comme les autres. Il abrite un refuge pour les animaux sauvages blessés, malades ou abandonnés par leurs propriétaires. Parmi ces derniers se trouve par exemple un lion nommé Balami. Il était initialement gardé dans un zoo à Guimei, dans la province de Gyeongsang du Sud. Or, il était enfermé dans une cage minuscule et souffrait d'une extrême malnutrition, à tel point que ses côtes étaient devenues saillantes. L'état de l'animal a été révélé par des médias en juin dernier. Le mois suivant, il a été transféré au zoo de Chongju pour être soigné. Aujourd'hui, il est en pleine forme et a même trouvé une compagne, une lionne nommée Dodo. Ce refuge animalier héberge aussi trois ours à collier, trois frères. Ils ont été sauvés en 2018 d'une ferme d'extraction de bile d'ours située à Donghae, dans la province de Gangwon. Il faut dire qu'en Corée, la bile d'ours a été utilisée dans le passé à des fins de médecine traditionnelle. Dans les années 80, les fermes spécialisées dans la production de cette substance étaient nombreuses dans le pays, et il en reste encore dans certaines régions. Pourtant, ces infrastructures continuent d'être dénoncées par les conditions plus que déplorables d'élevage et d'extraction de la bile. Enfin, autre occupant du lieu, Kim Sobang, ou Monsieur Kim, est un renard roux d'Amérique du Nord, une espèce en voie de disparition. Ce canidé réputé pour sa rapidité a été retrouvé il y a 3 ans dans une salle de basket à Changju. L'animal semblait avoir été élevé illégalement par un particulier avant d'être abandonné. Le renard roux de Corée, lui, est classé comme un animal en danger d'extinction par le gouvernement. Ainsi, il est placé et protégé dans une réserve naturelle désignée, ce qui n'est pas le cas pour un renard roux américain. C'est pourquoi Kim Sobang a trouvé son refuge dans le parc zoologique de Changju.
Bonsoir tout le monde et bienvenue dans ce nouveau numéro de Focus Asie. Notre première destination est la Chine où les jeunes remettent récemment en question des traditions matrimoniales. Voici un exemple. Un Chinois de 35 ans a rompu ses fiançailles et a lancé un tour du monde après que la famille de sa fiancée ait exigé une dot exorbitante. Ce prix de la fiancée représente une contribution du marié à la famille de la femme en Chine. Initialement, l'homme avait accepté de verser 24 000 euros, équivalent à 4 fois son salaire mensuel. Cependant, une fois la somme à peine réunie, sa future femme a demandé à nouveau un supplément de 4 000 euros. Se sentant plus impuissant que jamais, il a décidé de rompre avec sa copine et de savourer la beauté du monde. D'ailleurs, le coût de son périple était le même que le supplément réclamé. La plupart des internautes applaudissent sa décision, considérant qu'il a fait le choix intelligent de chercher le bonheur plutôt que de s'embourber dans des problèmes financiers. Le Japon fait face à des soucis de déplacement à cause du vieillissement de sa population. Selon l'Association des taxis du Japon, le nombre de chauffeurs a dégringolé de 20% en mars de cette année par rapport à 2019, enregistrant environ 230 000. L'année dernière, l'âge moyen des taxis japonais était de presque 60 ans. Ce problème social perturbant la vie quotidienne est aussi exacerbé par l'élimination en cours de ligne du bus. À Fukuoka, 32 lignes ont disparu ont vu leur service raccourci et 16 itinéraires seront supprimés à Nagasaki et Osaka dès l'année prochaine. Pour y remédier, le gouvernement envisage d'officialiser le covoiturage. Actuellement, le transport payant en véhicule privé est interdit, sauf dans certaines régions. De leur côté, les entreprises accélèrent l'introduction des voitures autonomes. En avril, le pays a levé les restrictions sur la conduite sans personnel, mais des controverses sur la sécurité persistent. La menace des punaises de lit s'étend maintenant jusqu'à Hong Kong. Cette situation a déclenché une flambée des ventes en ligne de pesticides et d'antiparasitaires avec une hausse de 170 supérieure par rapport aux chiffres habituels. Cependant, les experts soulignent que la combinaison d'une superficie limitée et d'un climat chaud et humide de la région constitue un environnement parfait pour leur prolifération. Il est également à noter que ces nuisibles étaient déjà présents en grand nombre sur l'île. La cause de cette anxiété accrue et soudaine de la population hongkongaise est une photo devenue virale sur les réseaux sociaux. Elle montre des punaises de lit sur un siège d'un train. Japon va lancer le mois prochain son tout premier salon de l'éducation afin d'attirer des étudiants de Chine continentale. Quatre principaux groupes scolaires seront présents lors de cette foire de deux jours qui débutera le 15 décembre. Déjà plus d'une centaine d'écoles primaires, de collèges et lycées ont confirmé leur participation et les candidatures restent ouvertes. Historiquement, l'admission dans les écoles hongkongaises, qu'elles soient locales ou internationales, représentait un véritable défi. En particulier pour les écoles primaires, la compétition était féroce entre les étudiants chinois vivant à proximité ainsi qu'avec les étrangers. Cependant, au cours des deux dernières années, plus de 30 000 étudiants ont quitté l'île, entraînant une forte baisse du nombre d'élèves, notamment dans les zones les plus riches. Cette diminution a créé des difficultés pour certains établissements qui sont contraints de fermer leurs portes. Diwali 2023, l'une des plus grandes fêtes indiennes et hindoues, a pris fin mercredi dernier. Aussi connue sous le nom de Deepavali, dit rangée de lampes en sanskrit, cette célébration a illuminé le Gange avec une ribambelle de 2 millions de lampes. Cette année, les festivités ont débuté le 10 novembre et ont duré 5 jours. Et la célébration de la lumière de la victoire du bien sur le mal a eu lieu au troisième jour des festivités, à savoir dimanche dernier. Cependant, d'importantes répercussions ont été observées. Les métropoles ont été frappées par une pollution atmosphérique extrême en raison de l'usage massif de pétards et de feux d'artifice. Selon les médias locaux, dès le lendemain de la cérémonie, la capitale New Delhi s'est retrouvée parmi les 10 villes les plus polluées au monde. En particulier, l'indice des particules fines a explosé de 140% en une seule journée.
Voilà, ainsi s'achève votre Séoul au jour le jour. En espérant que cette édition vous a plu, rendez-vous du lundi au jeudi, même heure et même fréquence. C'était Choi Soyeon à la rédaction, Franck Atlani au micro et au Hayang à la réalisation. Merci de nous avoir suivis et je vous souhaite une excellente semaine.